Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Néniaud et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode du podcast. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, ce podcast, c'est une conversation avec des personnalités toutes plus remarquables les unes que les autres, des personnalités différentes, des personnalités variées, des personnalités étonnantes qui à chaque fois vont nous apprendre à partir de leur parcours, de leurs expériences personnelles, énormément d'enseignements pour qu'à notre tour, nous puissions devenir la meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Isabelle Cochère de Leritz. Peut-être que vous connaissez déjà de nom Isabelle parce qu'elle a été pendant quelques années dirigeante de l'entreprise Engie. Aujourd'hui, Isabelle est désormais la cofondatrice de la start-up Bluenomy, une start-up donc innovante dans le secteur de l'énergie. Comment vous décrire Isabelle? Tout d'abord, je dirais que Isabelle, c'est une femme d'action, une femme engagée, une femme impliquée qui a été l'une des premières femmes à être à la tête d'une entreprise du CAC 40. Son parcours est assez remarquable dans le monde des grandes entreprises et en particulier le monde de l'énergie. D'abord dans le monde de l'eau, puisqu'elle a été la directrice générale de Suez pendant des années, puis avec Engie, où elle est arrivée à un moment très particulier et critique, de transition pour mettre fin au tout carbone et passer de plus en plus vers une transition écologique. On a énormément d'ailleurs parlé de cette période et de cette transition, de cette gestion du changement dans le cadre de ce podcast, vous verrez, c'est passionnant. Et puis depuis son départ d'Engie, Isabelle est devenue entrepreneur, vous l'aurez compris, et dirige désormais Bluenomy qu'elle a lancé en 2022. J'ai trouvé cet aspect vraiment intéressant, ce virage à 180 degrés au fond, le fait de passer d'une entreprise de plus de 150 000 collaborateurs à tout d'un coup, la page blanche, le fait de créer son entreprise soi-même en partant de zéro. On a également parlé de sa vision du succès, de la performance, de son rôle de chef d'entreprise et notamment comment réussir à imposer son leadership et puis embarquer des milliers de personnes dans un projet qui nous tient à cœur. On a aussi bien sûr de parler des problématiques énergétiques, environnementales et vous verrez qu'Isabelle est extrêmement intéressante à ce sujet. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Isabelle Cochère de Leritz. Eh bien, enchantée Isabelle, je suis ravie de vous accueillir sur le podcast.
Bonjour Pauline, moi aussi.
Mille merci d'être venue jusqu'à moi. Alors, j'ai voulu commencer, je vous avouerai, dans le vif du sujet parce qu'il y a quand même quelque chose d'absolument incroyable. Il y a plusieurs choses incroyables dans votre parcours, mais le passage de votre carrière chez Engie, où vous étiez dirigeant d'une entreprise, je ne sais pas combien de milliers, de dizaines.
150 000,
voilà,
je pense.
150 000 salariés. Mmh. À l'aventure Bluenomy, où vous devenez entrepreneur, c'est quand même un saut, je dirais, plus qu'un 180 là, à ce stade. C'est un saut qui est absolument dément. Et je crois que je ne connais personne, en fait, sincèrement, qui fait un tel saut. Donc, je voulais comprendre, déjà, premièrement, pourquoi ce revirement et pourquoi, en fait, cette envie de créer Bluenomy.
C'est vrai que je suis devenu entrepreneur. Alors, changement de décor absolu. On est dans un open space, un spaces dans le Sentier à Paris. Une équipe d'une cinquantaine de personnes à Paris. Et puis, en tout, avec les équipes asiatiques, on est quand même 120 maintenant. Mais c'est vrai que par rapport à l'univers corporate que moi, j'ai connu toute ma vie, quasiment, c'est un changement de décor radical. Mais moi, j'adore, en fait. Je me rends compte, de toute façon, c'est un test que vous passez tout de suite.
Ouais.
Parce que quand vous travaillez dans un grand groupe, clairement, il y a une action à lancer, vous le dites, et puis il y a immédiatement plein de gens qui se mettent à y travailler. Ben là, c'est vous, quoi. Donc, très, très vite, vous vous rendez compte si ça le fait ou pas.
Ben, c'est ça qui est
important. Moi, j'aime, en fait.
Donc, vous aimez.
Mais moi, j'aime jardiner, en fait. J'aime faire des trous dans la terre avec une pelle, mettre des oignons de tulipes. Vous voyez, il y a un aspect chez moi qui est très. Donc, ça me va bien. C'est un changement de décor complet. Mais je suis contente de faire ça.
Mais alors, Isabelle, dites-moi, il y a quand même une équipe autour de vous. Vous me parlez de 50 personnes en France, 150 personnes autour. Enfin, j'imagine que ce projet, il est aussi né avec des gens.
Ah ben, ce projet, ce sont des rencontres. Hein. Et avec des entrepreneurs, des entreprises qui sont sur ce chemin de transformation. Puis avec des gens, concrètement, qui étaient déjà actifs dans ce domaine. Et j'ai tout particulièrement croisé la route d'un entrepreneur qui s'appelle Vincent Kenz. Qui est un type formidable, qui à 25 ans, à un moment où ça n'intéressait personne, c'était il y a 15 ans. Donc si vous faites les maths, il a 40 ans aujourd'hui. Il y a 15 ans, Vincent, en sortant d'école, a senti que le sujet du dérèglement climatique était un énorme défi qui arrivait, que très peu de gens voyaient à ce moment-là. Et il a créé un groupe d'experts, tout petit au départ. Comme il dit très drôlement lui-même, il n'y avait pas de marché, pas de clients à ce moment-là. Donc, ils se sont vraiment accrochés sur cette ambition de trouver des modèles qui matchent ce sujet du carbone et puis contribuent aussi à l'accès à l'énergie. C'est une équipe qui, même toute petite, avait une pratique de pro bono sur l'accès à l'énergie en Afrique tout particulièrement. Et puis ils ont cheminé, et puis ils sont devenus de plus en plus gros, ils sont devenus connus, ils sont sortis de France, ils sont installés en Asie, en Australie aussi. Et en fait, moi je les ai rencontrés au moment où j'étais en train de créer le projet dont on a parlé. Eux-mêmes étaient un peu à la croisée des chemins en disant bon, on fait beaucoup de conseils et en fait on sent que il y a besoin qu'on fasse beaucoup plus que du conseil parce que oui. Vous donnez des slides
des imprimants,
mais au fond, ça donne pas le mode d'emploi et avec ce sujet de silo qu'on retrouve à l'intérieur des entreprises aussi et on a bâti ensemble un mode opératoire si vous voulez qui consiste à essayer de parler toutes les langues le langue du conseil stratégique oui mais aussi la langue finalement de l'impact, de la mesure de l'impact, la langue de la mise en place concrète d'un projet, la langue du financement, et de bâtir une offre très distincte, en fait, pour accompagner tous ceux qui veulent transitionner et changer les règles du jeu. Voilà. Donc, en fait, d'un coup, là où je pensais démarrer à 2, puis 3, puis 4, puis 5, en fait, Vincent est arrivé avec 80 personnes, parce qu'avec son talent de conviction, il a embarqué en fait tous ses partenaires et toutes ses équipes dans ce projet.
J'explique aussi le chiffre effectivement, parce que quand vous m'aviez dit 50 personnes, je me disais waouh, c'est impressionnant. En aussi 120, voilà, c'est ça.
On est 120.
Impressionnant.
On est 120 aujourd'hui.
Temps,
ouais.
Mais donc je comprends aussi cette association quoi finalement. Ouais. Et quels ont été, je sais que c'est encore très récent, hein, parce que là, au moment où on se parle, Bluenomy a été créé en 2022, si je ne me trompe pas. Donc,
oui, c'est tout récent.
C'est
là,
tout
on vient
tout
de
récent.
Le lancer, oui.
Voilà. Quelles ont été pour vous les choses qui vous ont le plus étonné là, dans ce changement en fait, de métier, quoi, de devenir entrepreneur, de mettre les mains dedans? Est-ce qu'il y a des choses en fait, qui vous ont étonné par rapport à ce que vous aviez anticipé?
Non, pas vraiment, mais en fait, Bluenomy, c'est une envie. Hein. C'est pas d'abord l'envie d'être dans une petite entreprise, en fait, ou de la créer en pratique, mais c'est l'envie de contribuer à quelque chose. En fait, Bluenomy, c'est un combat contre la fatalité, Bluenomy. C'est-à-dire que, moi, j'ai passé ma vie dans d'entreprise, à essayer de faire évoluer les modèles, vraiment, mais depuis toujours, en fait. Ce truc-là, ça me tire depuis toujours. Puis dans des métiers, dans l'énergie, dans lesquels on était, mais vraiment avant tout le monde, je pense, hein, un peu au pied du mur. J'ai passé du temps après Engie à me dire, mais c'est quoi ma meilleure façon de finalement faire fructifier l'expérience que j'ai acquise? Est-ce que c'est de recommencer dans un autre groupe, ou bien est-ce que c'est d'essayer de réfléchir à mais qu'est-ce qui fait que quels sont les verrous qu'il faudrait faire sauter, en fait? Je vois plein de gens qui veulent transformer leur modèle dans le domaine de l'industrie, bien au-delà de l'énergie en fait, hein, dans la finance, un peu partout. Et puis, c'est si vous voulez, le contraste entre la volonté de le faire, les technologies disponibles, l'argent disponible aussi, il n'y en a jamais eu autant. Vous mettez ça d'un côté et vous mettez le rythme auquel ça avance de l'autre, il y a quand même
une
perte au feu qui est incroyable. Et donc, moi, j'ai passé beaucoup de temps à interviewer. En fait, j'ai interviewé, j'ai pas compté, mais des dizaines et des dizaines de dirigeants un peu partout, d'un peu tout secteur, taille d'entreprise, etc., sur le thème, mais qu'est-ce qui vraiment bloque le plus, à ton avis? Alors, ça donnait un kaléidoscope, littéralement, mais quand même avec des points fixes, quoi, des choses qui amenaient tout le temps. Trois verrous. Moi, je suis sortie là en me disant, mais il y a trois verrous auxquels, moi, en tant que femme d'entreprise, femme d'action, industriel, je peux essayer de contribuer à faire sauter, premièrement, les silos. Tout est siloté, en fait. Enfin, je sais pas commencer dans votre métier, à vous, hein, Pauline, mais en fait, c'est quand même, ça a l'air d'être une chose un peu récurrente, les tuyaux d'orgue dans les organisations. Or, l'économie circulaire, décarbonée, ça n'est que de la transversalité. Alors, ça, c'est vraiment, voilà, point fixe, on pourrait y revenir peut-être, mais avec des exemples. Mais premier verrou, deuxième verrou, c'est en fait, très souvent les gens me disent, mais l'entreprise que je dirige, elle est jugée sur les paramètres qui sont pas les bons. La façon de mesurer son succès n'est pas la bonne.
Vous avez un exemple?
Ah oui, plein. Ben non, mais plein.
Un exemple?
Quand vous regardez la manière dont l'argent est alloué sur les marchés, La façon dont les investisseurs, les asset managers, il y en a peut-être qui nous écoutent là ce matin, je ne sais pas.
C'est pas possible.
Allouent finalement les masses d'argent à investir sur les entreprises, parce qu'ils font ça toute la journée. Finalement, ils l'allouent en fonction de critères qui surpondèrent complètement le présent, ou le passé d'ailleurs, mais pas du tout le futur. Et vous avez tas d'entrepreneurs qui essayent de faire bouger leur entreprise, qui pour ça commencent par faire un effort, parce qu'il n'y a pas de mystère quand même. Quand il faut arrêter une technologie parce qu'elle est polluante et la remplacer par une autre parce qu'elle est moins polluante, voire plus du tout, ben il y a quand même un petit moment où vous faites l'effort d'investir. Et ça, c'est, le futur n'est pas pricé, jamais, ou très peu. Voilà, donc exemple, on pourrait y revenir aussi, parce qu'il y a des... Il y a des travaux et des tas d'idées sur ce sujet qui sont, je trouve, intéressantes et pleines d'espoir. Et puis, le troisième verrou qui revenait tout le temps, c'est, écoutez, oui, il y a plein d'argent, il y a beaucoup de liquidités. Le sujet, c'est que les types d'investissements à faire sont un peu différents de ceux dont les acteurs ont l'habitude. Et du coup, ben, cet argent a du mal à trouver le chemin. Je vais vous donner un exemple. Dans l'énergie, je l'ai vécu, mais alors de très très près ça. Le monde de l'énergie a, pendant des décennies, construit des grandes centrales. C'est le modèle. Ouais. Des grandes centrales. Une centrale, pour vous donner une ordre d'idée, une centrale à charbon, par exemple, hein, c'est 800 millions d'euros pièce. Gros ticket d'investissement quand on se met dans le monde de l'asset management. Et donc les outils d'investissement sont très habitués à ça. Et il y a des solutions sophistiquées pour financer des gros objets comme ça. Et des gens qui savent très bien mesurer les risques et qui se concentrent pendant quelques mois à mesurer le risque d'une grande centrale. Bon, le monde de l'énergie évolue vers, nous on appelait ça les 3D, hein, c'est un monde qui est décarboné, oui, bien sûr, et qui est aussi décentralisé et digitalisé. C'est-à-dire que pas mal d'infrastructures d'énergie d'infrastructures, même de production d'énergie, sont intégrées aux bâtiments.
De plus petite taille.
Petite taille, en fait. Hein, un foisonnement de plein de petites choses. Eh bien, et en très grand nombre. Donc, chacune est toute petite, mais il en faut des millions.
Ouais.
Donc, à la fin, ça fait des tickets énormes, mais sous une forme dont les acteurs n'ont absolument pas l'habitude. Et ça... on tombe aussi là-dessus sur le monde des silos, d'une certaine façon. On retombe aussi sur ce constat que le monde de la finance, il est comme le monde de l'industrie. Il est siloté aussi. Ben oui, vous avez des gens qui sont spécialisés dans le financement des très gros actifs. Vous avez des gens qui sont spécialisés dans le financement de ce dont les ménages ont besoin à la maison. Alors, encore plus petit. Mais alors, ce dont je viens de vous parler, ça tombe dans un trou. Et ça suppose donc que à l'intérieur... des chaînes de financement, on remet ensemble un certain nombre de compétences et qu'on... Voilà. Donc, voilà, des verrous et Bluenomy, c'est quoi ? C'est une contribution à faire sauter ces verrous et à apporter des solutions pour ça. Ce qui est ambitieux.
Ce qui est relativement
ambitieux. C'est ambitieux parce que... Mais non, mais c'est ambitieux pourquoi ? Mais c'est passionnant.
Bon, en même temps, c'est ça qui vous fait...
Ah oui, bien sûr.
Vous
mais c'est
matin.
Ambitieux parce que ça revient un peu à contribuer à changer les règles du jeu. En fait, à proposer des outils qui vont servir à beaucoup de gens à la fin. À proposer des façons de mesurer le succès. On va peut-être y revenir. Hein. C'est c'était un des verrous, ça, comment on mesure la performance, qui vont servir non pas à une seule entreprise, on espère bien, mais à plein. Donc, voilà, c'est une contribution à changer les règles du jeu et les outils du système.
Alors, quand on a un projet avec autant d'ambition, même si vous venez d'Engie et que vous avez une carrière où vous avez quand même côtoyé les grandes ce monde, si je puis dire, je peux imaginer quand même que lancer un projet avec une telle ambition, en fait, on ne sait même pas par où commencer. Alors, vous me dites que vous avez commencé par parler à des entrepreneurs, à des dirigeants qui, justement, vous ont parlé de ces verrous. Et donc, ça vous a permis vraiment de comprendre quels étaient ces fameux verrous. Mais au-delà de ça, est-ce que vous pourriez me décrire le commencement de Bluenomy et comment, justement, vous y êtes pris pour attaquer un projet avec autant d'ambition?
Ben, en fait, en commençant à s'attaquer à un problème concret. Puis un deuxième, puis un troisième. En fait, il y a un aspect... très piéton dans cette histoire. Hein. Il faut démarrer par quelque chose, aller tester vos intuitions auprès d'un entrepreneur en disant, bah, écoute, voilà, si on lançait si on montait quelque chose qui s'appelait pas encore Bluenomy, mais c'était l'idée, évidemment, est-ce que ça t'aide ou pas ? Et donc moi, j'ai fait le tour de d'entrepreneurs et tout de suite il y en a un qui m'a dit bah écoute ah bah oui ça alors un grand distributeur un acteur de la grande distribution et moi j'ai un cauchemar c'est le textile moi je distribue des tas de textiles dans mes magasins je sais très bien que l'impact de la chaîne de production de ce textile est élevé impact à tout point de vue de pollution de l'eau d'émissions de carbone etc l'impact social aussi parce que c'est produit par des entreprises qui sont en fait des fournisseurs de rang 10, 15 parfois. Enfin, c'est loin dans la chaîne. Mais lui se sent responsable, et à mon avis, il a raison de dire « mais je ne peux pas ignorer ce qui se passe à l'amont de ce qu'est ma propre responsabilité directe. » Je ne sais pas comment m'y prendre, parce qu'en fait, d'abord, ça suppose qu'on revoie complètement la façon dont nous, on est organisés en interne, et puis ça suppose que je mette autour de la table les fournisseurs et qu'on y réfléchisse. Elle dit, bah, écoute, est-ce que tu veux qu'on essaye ensemble? Et donc, on a commencé à dépiauter ce sujet.
Sur un projet
sur
précis.
Un projet précis. Voilà. Qui a potentiellement un impact gigantesque, hein, parce que ce sont des acteurs qui sont mondiaux et qui ont, en fait, on voit bien le levier qu'ils ont. Imaginez une seconde. Qu'on passe de cette chaîne d'approvisionnement d'aujourd'hui, qui est complètement linéaire. Donc, vous avez des produits qui sont confectionnés très loin dans le monde, qui sont importés à prix très, très bas. Coût de revient très très bas, c'est quelques euros la pièce hein, rendue entrepôt en France. Bon, et puis qui sont consommés. Et puis quand la personne n'en veut plus, ses habits sont récupérés. Et puis on sait très très bien. En fait, elles sont ces habits circulent, parfois sont revendus par des plateformes. Mais on peut pas dire que ça fonctionne encore comme une boucle non. Du tout. Voilà. Imaginez une seconde que on arrive à se dire bon, on va raisonner autrement. La matière première n'est plus ou en partie plus dans les champs de coton ou c'est chez les chimistes parce que c'est quand même beaucoup du polyester aussi tout ça mais la matière première elle est dans nos poubelles et dans nos placards
oui, donc c'est revisiter un changement complètement de paradigme
le sujet et du coup il faut s'imaginer une boucle qui est très différente qui consiste d'abord à concevoir des produits qui vont durer longtemps parce que vous quand vous aurez plus envie de le porter vous allez le revendre. C'est probablement même le distributeur qui va vous dire, mais attendez, moi je vous ai vendu il y a quelques années un textile. C'était telle taille, tel modèle. En fait, peut-être vous n'en voulez plus et moi je vous le rachète. Et ce sont des gens qui sont extrêmement, qui sont vraiment prêts à bouger, mais profondément, et qui sont prêts à imaginer que dans leur magasin demain, bien sûr, il y a des rayons de première main toujours, mais d'une première main qui sera de bien meilleure qualité parce que elle viendra de produits recyclés qui auront été viendront d'habits usagés qu'on pourra plus ils seront plus revendables trop usés pour ça mais ces habits usagés ils ont été effilochés et puis refilés retissés reconfectionnés etc probablement un peu plus cher à l'unité bien sûr mais une bien meilleure trace et puis de l'emploi aussi. Et puis pour le portefeuille de l'acheteur, ce soit quand même digeste, puisque ça veut dire un prix
un surcoût, ouais.
Plus élevé du vêtement à l'unité neuf. Il y aura une offre de seconde main en magasin qui sera pour le coup beaucoup moins chère. Et c'est des gens qui raisonnent prix du panier plus prix à l'unité du vêtement et qui raisonnent sur des logiques de budget mensuel de vêtements. Ça. Donc vous voyez, est-ce que j'arrive à faire toucher du doigt à quel point ce sont des logiques transversales.
Et profondes de changement.
Très profondes. Et puis transversales. Il faut mettre tout le monde dans la boucle pour arriver à sortir un truc comme ça. Ceux qui conçoivent le vêtement, les gens du marketing, ceux qui conçoivent l'agencement des magasins, parce qu'il y a corner première main et corner deuxième main, enfin xème main en fait. Et puis évidemment, réunir autour d'eux une sorte d'écosystème de gens qui sont en fait beaucoup plus locaux. Qui vont être capables de s'impliquer dans chacun des maillons, tout ça implique.
Et c'est très intéressant, je trouve, de rentrer dans ce niveau de détail parce que ça permet de comprendre la lenteur aussi qu'on peut avoir comme perception en tant que public où on se dit, ça fait des années quand même qu'on parle de l'environnement, on se dit pourquoi est-ce que les entreprises ne vont pas plus vite. Mais quand on comprend la profondeur et la complexité, en fait, tout simplement, de chaque projet, on se dit, je me dis, il y a un besoin de leadership très fort, j'imagine, une volonté très forte comme celle de ce dirigeant d'entreprise, oui. En fait, qui est, j'ai l'impression, complètement...
Très forte.
enfin, nécessaire. Mmh. Et puis ensuite, ce besoin d'accompagnement, probablement parce que les gens ne savent pas faire et qu'il faut, il faut tout repenser, quoi.
Volonté très forte du dirigeant. Alors ça, je ne peux pas être plus d'accord. S'il n'y a pas ça,
c'est ça.
Même pas la peine de commencer.
Et peut-être d'ailleurs que c'est ce qui se passe de temps en temps, mais je ne sais pas si vous avez cet avis, Isabelle, que de temps en temps, il y a une volonté, on va dire, qui est peut-être un peu marketing ou qui est un peu, voilà, c'est la mode et tout, mais qui n'est pas une volonté profonde. Et dans ce cas, bah, en fait, les choses ne vont forcément pas avancer assez. Il faut vraiment un engagement, quoi.
Il faut un engagement et ça suppose un peu la durée. C'est-à-dire que ce sont des gens qui arrivent à s'affranchir du fait que peut-être qu'à très court terme, cette bascule va commencer par coûter. C'est un investissement, comme tout investissement, en vérité. Il n'y a rien de finalement nouveau là-dedans. Sauf que c'est une innovation d'un genre un peu nouveau, avec à la clé effectivement la capacité à mettre beaucoup de gens autour de la table. Donc, faut vraiment être décidé pour le faire.
Je voulais revenir sur la perche que vous m'avez un petit peu envoyée comme ça à plusieurs reprises, donc sur les indicateurs de succès, sur en fait la difficulté de les établir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple?
On va partir dans un autre univers, l'univers que j'ai bien connu, qui est l'univers du monde coté, des entreprises cotées. Quand vous regardez la façon dont les entreprises sont évaluées, on est un peu pris entre deux feux, c'est-à-dire que la plus grande partie de la décision d'investir est fondée sur l'analyse immédiate des paramètres financiers de l'entreprise. Donc l'EBITDA qu'elle génère, son cash flow, son résultat net du trimestre ou de l'année.
Mais sur le passé, comme vous disiez.
Bah, résultat, c'est le résultat d'une période précédente. Donc oui, c'est relativement sur le passé. Le cash est un tout petit peu plus actuel, mais malgré tout, on parle de bilan de cash flow sur une période passée. Bon, depuis quelque temps, ça ne vous donne absolument pas d'indication sur mais l'entreprise qu'on a là qu'on regarde. Certes, elle génère du cash, mais est-ce qu'elle va faire partie du futur? Est-ce que ses métiers ou les technologies qu'elle emploie sont future-proof d'une certaine manière? Mais en fait, c'est pas lisible ça. Depuis quelque temps, des éléments complémentaires sont pris en compte de plus en plus. C'est pas encore la majorité des cas. Enfin, ça vient. Combien de carbone? Et donc, vous avez des tonnes de carbone qui sont finalement une sorte de compte de résultats carbone, un peu symétrique du premier. et on vous dit, cette entreprise, scope 1, 2, 3, je ne sais pas si vous êtes familière avec tout ça. Émissions directes à l'intérieur du périmètre légal de l'entreprise, disons. Ça, c'est le scope 1, mais mettons scope 1 et 2. Et puis scope 3, c'est le carbone émis par la chaîne de fournisseurs dont l'entreprise se sert. Et puis d'ailleurs, dans le scope 3, il y a aussi les émissions de carbone que les clients vont réaliser parce qu'ils consomment le produit qu'on leur a vendu. Bon, scope 3, c'est toute la chaîne autour. C'est très impliquant, le scope 3. Bon, donc vous avez de plus en plus de mesures instantanées de scope 1, 2 et 3. Des émissions de carbone. Très bien, c'est bien. Franchement, c'est bien. C'est-à-dire qu'on commence à ouvrir le regard sur quelque chose qui n'est plus strictement le paramètre économique, qui est très important aussi, mais qui normalement est le résultat d'un impact d'une certaine façon. Donc, si vous regardez le résultat, mais que l'impact de ce résultat est négatif, il y a assez vite un problème. Bon, on commence à regarder les tonnes de carbone. Très bien. Et de plus en plus de gens disent, OK, donc je sais que si je suis investi dans prenons le cas du pétrole, un cas un peu controversé précisément, vous savez très bien que effectivement les acteurs pétroliers sont lourdement carbonés. Évidemment, du coup mesurer les tonnes de carbone émises par tous les acteurs du pétrole de la planète. À la fin, ça vous avance pas beaucoup. Oui, ce secteur est carboné. Bon, alors qu'est-ce que vous faites? Vous êtes une banque, vous avez le choix, et elles sont quand même un peu toutes, prises dans cet étau. Soit vous dites, je continue, voilà, je finance oil and gas, et j'utilise mes outils habituels, c'est-à-dire que je vais pondérer mon investissement oil and gas sur les différents acteurs en fonction de leur taille. Et des paramètres financiers immédiats de chacun d'entre eux. Bon, méthode classique, de plus en plus controversée. Vous avez de plus en plus de gens qui disent « mais je ne veux plus travailler avec une banque ou pour une banque qui fait ça ». autre choix, j'arrête de financer oil and gas. Difficile. Nos modes de vie sont carbonés aujourd'hui et utilisent largement du pétrole et du gaz. Si on regardait les étiquettes de nos vêtements, il y a de fortes chances qu'il y ait au moins en partie des matières synthétiques qui, en fait, proviennent du pétrole. Ce qu'on mange vient est lourdement carboné aussi. Il y a une espèce de, je trouve, d'approche parfois simpliste qui consiste à dire il n'y a qu'à arrêter de financer oil and gas. Bon, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais ok, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Donc je développe un peu, j'espère que je ne suis pas trop long, mais pour dire, c'est quoi les paramètres de succès qu'il faut regarder? Il y a des choses qui se développent et que nous, on a Bluenomy mis sur la table et testé avec des banques et avec des fonds aussi, qui consistent à dire, il y a les mesures immédiates, d'accord, finalement, on ne sait pas en faire grand-chose. On va regarder le mouvement. On va pas regarder la photo, oui, bien sûr, mais on va aussi regarder le film. Et arriver à trier dans ces acteurs de l'énergie ceux qui sont en fait complètement statiques. Et il y en a qui bougent pas, c'est-à-dire qui se disent j'ai un métier, je sais le pratiquer, je suis bon dans ce métier, je continue. Et puis ceux qui, à l'inverse, commencent à ralentir leur activité d'oil and gas et se déplacer vers la suite. La suite, c'est le renouvelable notamment. L'électricité renouvelable et du gaz renouvelable. Il y a les deux. Voilà. Et donc, l'intérêt de sophistiquer la façon dont on regarde la performance d'une entreprise en regardant le film et plus seulement la photo fait qu'en réalité, on peut déplacer l'argent investi, vers ceux qui bougent. Imaginez-vous une seconde que finalement, ces outils-là deviennent, nous on appelait ça les transition scores. C'est assez parlant, transition score, qui mesure la vitesse de transition. Imaginez que ça devienne un outil générique. Imaginez que tout le monde utilise ça. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que
ça changera tout.
La performance devient non pas la photo, la photo, on y a tous contribué à la photo en fait. Mais la performance devient le mouvement, la vitesse à laquelle les acteurs effectivement se déplace. Mais je pense qu'on crée un système super vertueux dans lequel, finalement, ça devient intéressant de prendre des risques de transition. En fait, c'est ça le fond du problème. Quand vous êtes à la tête d'une entreprise, finalement, votre risque à court terme, vous le minimisez en bougeant pas trop.
Oui.
Un peu. Vaut quand même mieux être un peu à l'avance du milieu du peloton qu'un peu à l'arrière du milieu du peloton. Mais pas tellement plus.
Bah, surtout qu'avec les marchés, d'après ce que je comprends, comme c'est le retour, enfin c'est le résultat immédiat ou même passé qui compte, ça donne plutôt pas très envie de prendre des risques et plutôt d'essayer de continuer dans un court-termisme qui permet en fait de bien fonctionner, quoi.
Oui, il y a un peu de ça. Alors le risque réputationnel croissant fait que
il y a quand même
vous avez quand même intérêt à bouger. Non, ouais. Mais c'est très compliqué maintenant d'assumer des postures où vraiment vous dites, écoutez, tant qu'il y en a, j'en prends. Non.
Oui, mais du coup, c'est un peu plus langue de bois, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on dit qu'on va bouger, mais bon, comme vous dites, on le fait pas énormément.
En tout cas, il y a une espèce d'inversion du risque à produire. Aujourd'hui, si vous êtes un dirigeant et vous êtes une dirigeante, Pauline, minimiser votre risque à court terme ne vous conduit pas du tout aux mêmes décisions que minimiser votre risque à long terme. Ouais. Si vous savez que votre job, c'est de mener une entreprise dans la durée, ce que je pense fondamentalement, mais à ce moment-là, les décisions que vous allez prendre, justement, de changement de technologie, ne vont pas du tout être les mêmes que si vous savez que vous êtes jugé à 3 ans. Donc, le rêve, c'est que les outils qu'on utilise pour mesurer la performance des entreprises intègrent ça. Et la vitesse de mouvement, ça, c'est un truc qui est quand même... Alors, on l'a testé avec un très grand fonds qui investit, qui est un des plus grands fonds du monde, qui investit des trilliards, littéralement, en disant, est-ce qu'on saurait déjà implémenter un transition score comme ça sur des milliers et des milliers de lignes? La réponse est oui. Alors, ça se perfectionne continuellement. Donc c'est praticable. Et ça produit quoi? Ça produit une espèce de déplacement de l'argent Alors c'est le début, hein, mais vers ceux qui bougent. Ce mouvement-là, à mon avis, il est systémique, c'est-à-dire que il va contribuer à réaligner les risques court terme et long terme, et il va contribuer à inciter beaucoup plus fortement tous ceux qui sont en situation de décider, en fait, à se dire bah oui, mais évidemment ma responsabilité, c'est le mouvement, ma responsabilité. La photo carbone dont j'hérite en tant que dirigeant, parce que le métier est ce qu'il est, l'histoire est ce qu'elle est, c'est une chose. Mais ma responsabilité dans la société d'aujourd'hui, c'est précisément le mouvement. Et d'ailleurs, je vais arriver à montrer que si je me compare à d'autres, parce que ce transition score existe et qu'il montre, alors, en plus c'est visuel, c'est-à-dire qu'il montre des nuages de points très concrets sur la vitesse des trois dernières années, comment elle se compare entre les acteurs X, Y et Z. Le mouvement promis dans les trois prochaines années, comment est-ce que se compare entre X, Y et Z, et c'est très fin. Si je prends des risques pour bouger, ça va se voir. Voilà. Et je vais pouvoir, du coup, attirer plus d'argent, bien sûr, et puis aussi plus de talent, parce que c'est ça aussi la bataille, je crois. Hein.
C'est sûr. Isabelle, tout ce que vous me dites, en fait, me fait penser un peu à mon audience et au fait que je pense qu'il se pose une question, et moi aussi, qui est... On parle beaucoup de la difficulté, donc, de faire bouger les choses. Et là, tout ce que vous nous dites est un exemple, en fait. Et le niveau de détail dans lequel on est obligé de rentrer pour, voilà, faire changer à l'échelle de la planète les choses, est assez marquant pour nous. Est-ce que vous, de votre point de vue, aujourd'hui, on est dans une situation où on peut quand même avoir une forme d'optimisme? Je trouve qu'on est quand même souvent dans un espèce de pessimisme ambiant au niveau environnemental en se disant, en tout cas, ça bouge pas, c'est trop difficile, c'est trop siloté, effectivement, les KPI sont pas les bons, etc. Et donc, j'aimerais avoir votre point de vue à vous, personnel. J'imagine que si vous avez créé l'UNOMI, je peux imaginer la réponse. Mais du coup, comprendre pourquoi est-ce que vous auriez une forme d'optimisme sur ce sujet.
Oui.
Qui peut être parfois un peu déprimant, franchement.
Je pense qu'il y a une espèce de fatalisme ambiant qui non seulement n'est pas productif, mais en plus qui ne paraît pas juste. C'est-à-dire que il y a un niveau de bouillonnement sans précédent. Moi, je n'ai jamais vu ça, en fait. La somme d'efforts, d'envie, d'innovation partout, en réalité, et je pense qu'elle est sans précédent. Et ça va avec le fait que le besoin de changer est sans précédent aussi. Bon, et que la conscience de ça, elle est quand même largement répandue maintenant. Enfin, et puis il y a quelque chose de spécial dans ce réchauffement climatique. C'est dans cette crise, en fait. C'est pas un réchauffement, c'est un dérèglement. Le problème est beaucoup moins l'augmentation moyenne de la température que la volatilité climatique, tous les phénomènes extrêmes qui se multiplient. C'est ça le sujet, c'est un dérèglement, surtout. Mais ça touche tout le monde. Au fond, des crises, y compris dramatiques, il y en a depuis toujours, malheureusement. Moi, j'ai travaillé dans les métiers de l'eau. Historiquement, bien avant de travailler dans l'énergie, moi, je travaillais dans l'eau. Je suis passionnée par ce sujet de l'eau et de l'accès à l'eau. L'accès à l'eau, c'est un sujet qui reste extraordinairement posé, enfin et aigu. Il y a des centaines de millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable et pas accès non plus à du traitement des eaux, avec des problèmes de santé publique et notamment chez les enfants qui sont énormes. C'est sidérant littéralement encore ça.
Oui, c'est fou de se dire que
et
c'est
pourtant,
encore quelque
mais
chose.
Oui, mais le point justement, enfin moi je crois, pas ce que vous en pensez, mais c'est régional. En fait, c'est régional. C'est régional, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne touche pas tout le monde. Ici, on pourrait très bien ne pas le savoir, juste. Donc, effectivement, ça n'a jamais, c'est tragique, hein, franchement. Il n'y a pas assez d'empathie, il n'y a pas assez de compassion, je pense, dans notre société, ou de curiosité, un peu de tout ça.
Quand on n'est pas affecté soi-même, on y pense moins.
Ce qu'on n'a pas sous les yeux, on ne l'a pas sous les yeux. Le dérèglement climatique a ceci d'incroyablement nouveau, qu'il est complètement global. Mais j'ai jamais vu quelque chose d'aussi global que ça. C'est-à-dire que n'importe quelle tonne de carbone émise par n'importe qui dans le monde a un impact sur tout le monde. Un impact sur tout le monde parce que le dérèglement, là pour le coup, il touche tout le monde. Donc, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une espèce de mobilisation générale qu'il n'y a jamais eu sur d'autres sujets. Pour contrer ça, trouver des solutions. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment distinct. Moi, ce que j'espère, c'est que au passage, on va du coup s'intéresser à des choses qui sont tout aussi importantes, comme l'accès à l'eau, l'accès plus généralement aux infrastructures essentielles, qui un jour va devenir systémique aussi, de toute façon. Mais si on pouvait s'en occuper maintenant, ce serait, je pense que on ferait beaucoup. Voilà. Donc moi, je suis optimiste. Alors ce terme, il est un peu connoté de, vous savez, l'optimisme BA. Non, c'est assez pragmatique ce que je vous dis. Il y a un bouillonnement dans le monde de la technologie qui est extraordinaire. Nous, on est en contact chez Blonomy avec énormément d'acteurs de la technologie qui viennent avec des choses qui sont réellement disruptives. Bon, là aussi, il faut casser les silos, c'est-à-dire qu'il faut arriver à les mettre en contact avec des gens qui peuvent les implémenter à grande échelle, vite, raccourcir les cycles. Sinon, c'est la poule et l'œuf. Hein.
Ouais.
Ça reste cher parce qu'on ne l'implémente pas. Comme on ne l'implémente pas, voilà. Vous avez un système qui
tourne en rond.
Qui tourne en rond un peu, en tout cas, qui est trop lent. Mais donc, ça bouillonne. Vous savez, quand on a créé Blonomy, on s'est dit, ce serait quoi notre phrase clé un peu, la baseline, dans le jargon de la communication. Et on a choisi The best is yet to come.
Et ça répond un peu à ma question.
Ouais, le meilleur est devant. Mais moi, ça, je crois vraiment.
Ça fait du bien de l'entendre, franchement, Isabelle, parce que je trouve qu'on est dans une période, peut-être dans un pays aussi, où on est un peu dans une situation de fatalisme ambiant au niveau de l'environnement. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais ça veut dire qu'on peut quand même espérer qu'on va s'en sortir. Et je trouve que c'est pas toujours le discours, en tout cas.
Le truc, c'est qu'il faut plonger à l'intérieur de la machine pour changer les réglages. Ouais. Les verrous dont on parle, en fait, il faut les faire sauter. La représentation du succès, hein, la façon de mesurer la performance d'entreprise, aujourd'hui, c'est un ressort arrière. Mm. Ça nous ramène tout le temps en arrière. Mais il y a moyen d'en faire un ressort avant.
Avec
cette histoire de transition score, par exemple. Mm. Donc, c'est là aussi, je pense que il faut avoir l'optimisme actif, quoi. Ça suppose d'aller changer les réglages.
Ouais, ouais.
Sinon, effectivement, on peut tourner en rond longtemps. Hein.
Bien sûr. Alors, ça me fait une belle transition vers le leadership quand vous me parlez d'optimisme actif, parce que je pense que le leadership, c'est aussi pas mal ça. J'ai lu une phrase que je crois que vous avez dite ou que vous avez écrite, que j'ai trouvée très intéressante et je serais assez curieuse que vous puissiez élaborer sur cette idée. Vous disiez, je crois, le leader se distingue alors que le manager tient une dimension d'exécution. Le leader est celui qui fait émerger un cap. Et j'aimerais bien comprendre donc dans quel contexte vous avez pu dire ça et puis donc voilà que vous élaboriez sur cette idée de cap versus, d'une certaine manière, le fait d'exécuter le cap.
Oui. Bah, on peut peut-être parler de l'énergie.
Un sujet que vous connaissez un peu.
Non, mais que ce que j'essaye de vous dire soit, comment dire, un peu illustré.
Ouais.
Bon, l'énergie est le secteur qui a été le plus directement, le premier, en réalité, impacté par le besoin de transition, évidemment. Hein, premier secteur émetteur, un peu par construction. Et moi j'ai passé 20 ans dans une entreprise qui s'appelle Engie, presque 20 ans, qui est un acteur magnifique qui avait pendant des années développé un business model très international, en fait, avec une très belle idée à la base, vraiment, qui était de dire on va amener l'énergie là où il n'y en a pas, donc beaucoup dans les pays émergents. Ce groupe a construit de manière très pionnière énormément d'infrastructures de production d'énergie dans une soixantaine de pays. Qui est tout à fait atypique.
Oui, qui n'est pas quelque chose qu'on sait sur Engie en plus.
Non. Et en plus, ce n'est pas très typique dans le monde de l'énergie. Les acteurs de l'énergie sont rarement très internationaux, en fait. Ils ont une histoire ancrée quelque part. Ils ont pour beaucoup été d'anciens acteurs nationaux et puis ils se sont un peu développés autour, mais c'est rarement très. Très conquérant comme modèle. Ce groupe s'est distingué comme ça, avec quelque chose qui était très, très ambitieux et très, très bien exécuté, qui consistait précisément à construire ces infrastructures énergétiques au Pérou, en Thaïlande, en Indonésie, enfin dans des pays où il y avait vraiment un besoin. Et avec les technologies de l'époque, c'est-à-dire des centrales à charbon et des centrales à gaz, et des barrages aussi.
Donc, dans les années, quoi, 60-70?
Non, 90, 2010, voilà, okay. pour englober
ah ouais, donc
un
encore.
Peu. Ce groupe a mis en œuvre, déployé ces modèles fait beaucoup de bien, amener de l'énergie dans des régions qui n'en disposaient pas, contribuer à élever le niveau de vie, enfin bon. Et, mais simplement, il est devenu, un peu par construction avec tout ce que je vous raconte, un très gros émetteur de carbone. Un des plus gros, puisque étant l'un des plus gros producteurs d'électricité, avec ce que je viens de vous raconter, par définition, aussi un très gros émetteur de carbone.
C'est sûr.
Et le sujet du dérèglement climatique a émergé. Alors, c'est là que aussi il faut réfléchir à la façon dont notre société digère l'information et se l'approprie. Mais la prise de conscience réellement sur le dérèglement climatique n'est venue que progressivement. Et le jour où elle nous a atteint quelque part, nous collectivement, entreprises, au fond, ça vaut aussi pour tous les autres acteurs, hein, ce que je suis en train de vous raconter là. Ça a évidemment posé un problème mais existentiel, une question existentielle. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, et moi, j'ai été finalement dans les instances de direction de cette entreprise, puis à la tête de cette entreprise, pendant toute cette phase-là de, si vous voulez, d'atterrissage, finalement de prise de conscience que ben, ce modèle ne pouvait pas durer, qu'il fallait qu'on change. Et j'ai été concrètement... nommée patronne de cette entreprise avec un projet qui était très ambitieux et qu'on avait mûri pendant assez longtemps. J'ai eu la chance d'avoir un recouvrement moi avec mon prédécesseur qui a duré 18 mois et qui m'a permis de peaufiner ça, cette bascule, comment on allait la faire, est-ce qu'on allait à quelle vitesse et jusqu'où quoi. Et là j'en viens à votre point de exécuter une feuille de route versus faire émerger une feuille de route. Quand on a travaillé sur tout ça, il y avait une intuition fondamentale qu'il fallait aller vers zéro carbone. Ça c'est ce que le dirigeant, si je puis dire, impulse dans le système. Alors d'ailleurs il l'impulse parce que en fait il s'est nourri de plein de choses et de plein de témoignages et de plein d'informations et de plein de gens. C'est pas qu'un jour ça lui tombe dessus, non. Mais si vous êtes dans le métier depuis longtemps et que vous laissez, vous avez les oreilles ouvertes, il y a quand même un moment où, voilà, l'éponge que vous êtes en tant que dirigeant se remplit et vous avez des capacités d'intuition. Enfin, c'est pour moi d'ailleurs une des caractéristiques d'un dirigeant. Il a une intuition sur son métier. Donc vous avez une intuition, d'accord, mais ça fait pas une stratégie en fait. Hein, ça, ça fait que vous pouvez aller voir. Vous pouvez communiquer votre intuition. Vous pouvez réunir un consensus autour d'une intuition, mais ça ne fait toujours pas une stratégie. Et la stratégie, là pour le coup, est le cap précis. Il faut le faire émerger. Vous ne pouvez pas en tant que dirigeant l'inventer tout seul. Heureusement que j'ai pas, même avec une équipe autour de moi. Que je ne me suis jamais dit bon ben très bien
c'est moi qui fais la stratégie quoi.
Voilà, on va faire le business plan, voilà le rythme, non, parce que la justesse du mouvement et de son rythme dépend fondamentalement des contextes. Le rythme en Indonésie n'était pas du tout le rythme au Maroc et encore moins le rythme en Amérique du Sud et pas non plus le rythme français. Et donc on a inventé en fait sur le tas. En pratique, pendant ces 18 mois dont j'ai parlé, littéralement un processus. C'était très construit. Ça passait par finalement trois tours du monde en pratique. Voilà. En 18 mois, moi, j'ai fait à peu près 3 fois le tour du monde sur cette période. C'est un peu grandiloquent de le dire comme ça, mais enfin, le tour des entités mondiales, il y en avait beaucoup. Pour faire émerger, d'abord, vérifier que cette intuition. Elle était comprise, qu'elle était éventuellement challengée hein, par endroits, tout le temps la livrer en pâture d'une certaine façon, et puis faire émerger, pour le coup, quelque chose de praticable à chaque endroit, avec une justesse qu'il fallait trouver entre la bascule vers zéro carbone, mais aussi le prix de l'énergie. On ne peut pas séparer les sujets. Le pouvoir d'achat, ça, c'est immédiatement. C'est impossible à détricoter. On peut pas dire il y a carbone, moi j'optimise carbone et puis pouvoir d'achat on verra plus tard. Non, ça marche pas. Donc dans chaque endroit on a fait cet effort de faire émerger. Voilà, à l'époque ça s'appelait pas une raison d'être, ça n'existait pas ce mot-là, mais en pratique ça revenait à ça. on est parti d'un exercice avec chacune des équipes localement. Mais au fond, c'est quoi le besoin critique non couvert dans le pays dans lequel on est, et auquel nous, avec nos qualités, nos technologies, ce qu'on maîtrise, on pourrait répondre. Ça s'appelle une raison d'être. Pour moi, c'est ça la raison d'être. Et puis au fil des mois, du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'on arrête dans ce pays? Et avant ça, en fait, toujours prendre dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on peut faire qu'on fait pas aujourd'hui? Quels sont les métiers qu'on peut développer qu'on ne pratique pas aujourd'hui? Voilà, où sont nos développements, nos opportunités, en fait, d'abord. Et puis après, by the way, cette technologie-là, il va falloir qu'on l'arrête. Comment on l'arrête? C'est quoi la bonne façon de l'arrêter? Est-ce qu'on ferme ou est-ce qu'on vend? On a eu ce sujet partout. Parfois, on peut pas fermer. Ne serait-ce que parce que le pays vous autorise pas, tout simplement, et puis parce que c'est pas possible. Et comment est-ce qu'on gère tout ça? Comment on gère ce mouvement de A vers B? Point par point, comment on le planifie, combien ça va coûter, combien on investit? C'est quoi l'équation des équipes derrière? Parce que ça veut dire des nouveaux métiers, des nouvelles compétences. Alors vous faites quoi? Vous mettez tous les anciens métiers, vous mettez les gens dehors et puis vous embauchez de nouveaux? Mais non. Donc comment vous organisez ça? Voilà. Donc on a mis 18 mois, on a sorti quelque chose qui était assez précis, qui est au fil des itérations devenu exécutable à chaque endroit. On a fait de tout ça un projet, mais vous voyez ce que je veux dire? C'était pas du tout
Il y a des sachants quelque idée, part merci.
Qui vous disent on va faire comme ça et puis tout le monde embraye, ça marche pas.
Non, mais c'est ça que je voulais rebondir sur tout ce que vous me disiez. En fait, il y a plusieurs points que je trouve vraiment qui me sautent aux yeux comme étant très intéressant, en tout cas pour moi en tant qu'entrepreneur à ma petite échelle. Premièrement, le fait qu'en fait vous êtes quand même malgré tout resté toujours en contact avec le terrain et que malgré cette impulsion de départ, cette intuition qui vient en fait de tout ce qu'on entend, il y a un moment donné où pour onboarder et aussi pour mieux comprendre et affiner dans le détail, vous et votre équipe bien sûr, il y a cette nécessité en fait de toujours garder quand même un pied avec la réalité quoi et avec le terrain concret pour que ça soit exécutable comme vous le disiez. Donc ça c'était peut-être un premier point et je vous laisserai rebondir dessus. Et puis le deuxième aussi c'est faire un plan qui soit exécutable pour aussi faire en sorte que l'équipe au global, donc les fameuses 150 000 personnes de chez Engie, s'emparent même de cette raison d'être. Et ça, j'aimerais bien qu'on le développe parce que je peux imaginer que dans une entreprise comme celle-ci, qui est une très grosse, c'est le gros paquebot hein, quand même, réussir à faire changer comme ça l'état d'esprit, la volonté, ça doit pas être évident quand ça part du haut, en fait, de vraiment faire en sorte que les équipes s'en emparent.
Ouais, c'est vrai. Alors, nous, on a fait quelque chose qui, je pense, a aidé et qui a valu tous les speeches de qui vous voulez pour provoquer une forme de non pas directement d'adhésion, mais en tout cas de réveil. On a demandé à chaque collaborateur d'aller rencontrer au moins deux personnes à l'extérieur de l'entreprise, qui voulait. Comment est-ce que vous voyez les métiers de l'énergie? Qu'est-ce que vous attendez, etc. Et ça aide beaucoup, c'est-à-dire que une espèce de reconnexion à la réalité, c'est un peu sévère de le dire comme ça, les gens sont pas déconnectés de la réalité, mais quand même, vous êtes dans une entreprise, vous êtes convaincu que vous faites quelque chose de bien, et en plus c'est vrai.
Mais parce que vous le voyez de l'intérieur, donc vous avez pas forcément la perception.
Oui. Puis au fond, chez les énergéticiens, les seigneurs, c'était les gens du charbon. Ça peut vous paraître surprenant parce que la technologie du charbon, de loin, c'est un truc qui est sale, qui est un peu grossier, pas du tout. C'est la technologie la plus sophistiquée après le nucléaire, quand même. Mais c'est très complexe.
D'accord.
La capacité à maîtriser le processus, en faire des usines extrêmement efficaces et jusqu'au dernier pourcent, qui fait qu'à la fin, effectivement, elle est rentable. C'est très complexe. Une centrale à charbon, quand vous la bâtissez, d'abord vous mettez des années, et ensuite il faut 18 mois pour la régler.
D'accord.
Pour vous dire. Donc, vous voyez, quand vous êtes quelqu'un qui a fait toute sa carrière là-dedans, qui est devenu très très bon dans son métier, qui est fier de ça, tout d'un coup, des règlements climatiques, il y a un aspect qui n'est pas d'ordre
viscéral, quoi, je veux dire.
Cérébral, mais bien sûr, existentiel, en fait, aussi. Et donc c'est ça qu'il faut faire atterrir. Et dans le fait de faire atterrir, il y a le dialogue avec l'extérieur, il y a les règles du jeu. Dans ces 18 mois dont je parle, on a aussi beaucoup discuté en interne dans le contexte du dialogue syndical, mais pas seulement. C'est quoi les droits et devoirs, en fait, de part et d'autre, les dirigeants, les collaborateurs, tout le monde. Et puis dans un moi j'ai pris le parti de la vérité, c'est-à-dire que j'ai dit assez clairement tout de suite, il y a des postes qu'on va arrêter, il y a des métiers qu'on va arrêter, donc je vais pas vous mentir, il y a évidemment des jobs qui vont disparaître, voilà. Puis aussi plein de jobs qu'on va créer, parce que cette transition, c'est bien plus un appel d'air qu'en fait une contrainte. Oui, bien sûr que c'est une contrainte, mais les besoins sont en fait dans le monde de l'énergie, bah regardez, hein, gigantesque. Donc règle du jeu, et la règle du jeu à laquelle on est arrivé dans le cadre, dans le dialogue syndical qu'on a eu sur toute cette période-là, c'était de dire toute personne qui est mobile, c'était exigeant quand même, hein, mobile, donc soit géographiquement, soit du point de vue du métier, toute personne qui est mobile a sa place. Voilà. Donc, engagement réciproque. Chacun se rend le plus près possible à la mobilité de métier et quand il faut géographique. Et à l'inverse, pour tous ceux qui sont prêts à la mobilité, il y a un engagement que personne n'est sur le carreau, si je peux le dire comme ça. Ouais. Avec à la clé d'ailleurs énormément d'efforts de formation.
Ils ont vu quand même, et c'est peut-être ça aussi qui a contribué au fait que vous avez réussi à faire bouger les choses et faire accepter, atterrir, comme vous disiez. Ils ont vu en fait qu'il y avait une main tendue, quoi, d'une certaine manière. C'est-à-dire, au-delà d'une main tendue, qu'il y avait déjà de la transparence et puis une conscience, en fait, que c'était, qu'il y avait un échange, quoi. Je dirais qu'on n'était pas complètement top-down, qu'on essayait vraiment de faire un effort.
Oui, et puis il n'y avait pas de triche, en fait. C'est-à-dire que je pense que ce contexte où les choses ont été mises sur la table, sans tourner autour du pot, sans faire semblant que, sans cynisme. Je pense que ça a beaucoup joué, ça. Et à la fois le fait de mesurer que effectivement le monde change et en fait on peut faire énormément de choses. On avait beaucoup travaillé aussi là-dessus sur nos racines, ce qu'on était vraiment, les capacités particulières qu'on avait. Vous savez, c'est les racines et les ailes en fait. Hein. Si vous avez les ailes mais pas les racines et que finalement la conscience de ce qui c'est pas seulement une question de technologie maîtrisée mais le constat de tout ce que l'organisation et les équipes ont réussi à faire dans le passé, des choses extraordinaires. Donc c'est le moment de convoquer tout ça aussi. Voilà, ça a besoin de changer. Oui, mais aussi des racines très fortes, une fierté très forte qu'on a beaucoup fait sortir, exprimer quoi. Pas sortir au sens envoyé ailleurs, hein, mais au contraire, elle a eu sa place. Des règles du jeu claires. Un plan qui était assez explicite, ça l'a fait, quoi. Il y a eu une partie de manivelle pas facile avec les actionnaires.
Ouais.
Pas facile, qui a pris autant de temps, finalement, presque, que le dialogue avec l'interne, hein, parce que vous avez aussi, là, des parties prenantes sur lesquelles vous ne pouvez pas avancer.
Et qui vont vers une incertitude, quoi, d'une certaine manière.
Qui vont vers une incertitude, et en fait, on s'est engagé, en vérité, comme tout groupe qui transitionne, dans ce que parfois on a appelé la vallée de transformation. C'est-à-dire, on peut parler de cuvette, mais c'est un peu moins remonté. Mais en pratique, c'est quand même ça. C'est-à-dire que au début, on a arrêté le charbon, c'était notre métier le plus profitable. Je vous fais pas de dessin. On a évidemment perdu des contributions en résultat et en cash. Et reventiler dans le même temps tout ça vers en pratique de la production d'énergie renouvelable, en pratique de l'efficacité énergétique. Enfin, le temps que ça sorte de terre, il faut quand même 18 mois, 2 ans, 3 ans par moment. Voilà. Donc, vous faites un business plan et vous l'assumez, vous le mettez sur la table qui est comme ça.
Oui, puis c'est un peu la traversée du désert, même au niveau des équipes. Au début, quand on annonce, il y a un peu d'enthousiasme, etc. Puis ensuite, il y a un moment donné où... Avant de voir les résultats, on touche un peu le fond, quoi.
Voilà. Et ça, c'est ça. Il y a forcément des moments de doute. Il y a forcément. Alors heureusement, tout le monde l'a pas en même temps. Le moment de doute, ça aide.
Avec du succès.
Mais oui, bien sûr. Et côté actionnaire, et je le dis pour insister sur le fait que même dans un contexte de groupe coté, ça n'est pas impossible. Parce que c'est pas le plus simple, quand même. S'il y a un écosystème qui est vraiment pondéré sur l'immédiat, c'est quand même celui-là. La gestion indicielle, et pousse encore dans cette direction. Donc, mais même dans ce contexte, c'était pas impossible. Alors, ce que ça a supposé quand même, c'est qu'on fasse un peu la tournée des popotes, si je puis dire, hein, côté investisseur. Pareil, en mettant les choses sur la table et en essayant de mesurer si on avait un centre de gravité suffisant de gens prêts à raisonner en pluriannuel et pas au trimestre ou au semestre pour se lancer. Sinon, vous pouvez pas concrètement. C'est vous avez quand même besoin de soutien là aussi. Et je me souviendrai toute ma vie de ce parce que c'était donc un autre tour du monde. Alors en pratique, ils sont plus concentrés, je vois.
Ouais, en général, c'est pas dans les mêmes endroits.
Mais quand même, on a fait le tour des places financières. Et c'était amusant d'ailleurs parce que c'était des dialogues assez honnêtes. Et je me souviens d'un investisseur qui nous a écoutés, qui à la fin nous a dit bon, écoutez, vous êtes un des plus gros émetteurs de carbone du monde. On voit tous que ce sujet-là monte. Vous avez sans doute raison, mais ça m'a fait rire. Il dit mais nous on reviendra quand vous aurez fini.
Ouais.
Parce que mon horizon de temps d'investissement est pas compatible avec ce que vous me dites. Oui, donc moi je vais sortir à un moment où vous êtes encore dans la vallée là, je peux pas. Mais
moi il avait été honnête.
Il avait été honnête. Il était représentatif, je pense, d'une partie du marché. Et puis en même temps, il y avait des gens qui sont là pour plus longtemps et qui alors on a été en fait jusqu'à négocier l'horizon. Nous, on était partis sur un horizon de 5 ans pour ressortir de la vallée. Alors l'avantage, c'est quand vous sortez de la vallée, vous avez le vent en poupe, c'est-à-dire que vous êtes en croissance, vous êtes sur un modèle qui est beaucoup plus attractif, etc. Donc vos multiples sont meilleurs, votre valeur est meilleure. Nous, on voulait 5 ans. Bon, le marché trouvait que c'était un peu long. Ouais. On a négocié 4, mais c'était de cet ordre en fait. Ça a été une négociation. Mais voilà, mon message, c'est pas impossible. Et je pense qu'aujourd'hui, encore moins qu'hier. Juste, faut. Pour arriver à créer une sorte de d'alliance finalement de l'interne, de l'externe, des actionnaires qui soient en soutien de quelque chose qui est bien compris par tout le monde.
Je vois que le temps passe, Isabelle, et donc on va arriver à mon fameux crible, qui sont les questions que je pose toujours à la fin du podcast, qui sont des questions, vous verrez, un petit peu plus personnelles, si vous l'acceptez. Alors la première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous auriez dans votre vie vécu un grand échec? Et si oui, est-ce que vous pourriez me parler surtout des enseignements que vous en avez tirés?
Ah bah oui, un grand échec, là, moi j'ai pas réussi à convaincre, après ce que je vous raconte, qui a bien fonctionné, c'est-à-dire qu'on a délivré sur ces fameux 4 ans là, dont je viens de parler, un très beau résultat, on a fait 50% de réduction d'émissions de carbone et 50% de création de valeur pour l'actionnaire. Donc, je veux dire, quelque part, démontrer que c'est pas incompatible et qu'on peut le faire. Mais pour moi, c'était juste une étape. Parce que je pense que le charbon était évidemment le premier sur la liste, mais que le gaz, c'est next on line. Et donc, moi, je suis venu avec un projet. Je me dis, écoutez, voilà, on s'est démontré qu'on savait le faire. On recommence. C'est une course d'étape. On commence, pas réussi à convaincre. Je pense que ça va paraître bizarre, mais on allait mieux. C'est-à-dire que, au passage, on avait beaucoup désendetté le groupe. Il était reparti en croissance, alors qu'il était, quand on s'est lancé là-dedans, en décroissance assez forte. Un peu, ce qui était logique au fond, parce qu'on n'était plus dans le modèle qui commençait à poindre. Et bon, voilà, vous êtes en croissance, vous avez fait une grosse partie du job, finalement un peu en avance par rapport aux autres.
Vous n'avez pas besoin de vous remettre en cause, quoi.
Non, la tentation, ça a été de dire pourquoi? Voilà. Et là, moi, j'ai buté. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à faire toucher du doigt qu'en fait, c'était évidemment enthousiasmant, mais c'était aussi l'intérêt à long terme du groupe de se lancer dans cette deuxième étape. Ouais. Voilà, de cet échec, je fais quelque chose. C'est-à-dire que j'en ai déduit que précisément, pour des gens qui avaient moins envie, en plus, changement de conseil d'administration, changement de contexte, etc., probablement un niveau d'envie qui n'était pas le même, faut créer un contexte dans lequel même ceux qui ont moins envie
n'ont pas le choix, quoi.
sont encouragés en tout cas à le faire. Voilà, donc on revient à comment on change les réglages là, de la machine à l'intérieur. Oui, un peu comme des mécanos.
Bon, et puis au final, comme souvent, ces échecs, j'imagine, extrêmement durs sur le coup, sont aussi une opportunité derrière de créer autre chose. Et là, en l'occurrence, qui a été l'opportunité de créer Bluenomy, parce que vous n'auriez certainement jamais fait ça.
Et probablement que si on réussit à faire ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, je pense qu'on peut avoir un très gros impact. Parce que justement, pour le coup, si on fait évoluer les règles du jeu, on voit que ça change la donne pour tout le monde et pas seulement pour un acteur. Voilà, c'est le but.
Est-ce qu'il y a un conseil qu'on vous a donné qui vous a particulièrement marqué? En gros, la question, c'est quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné?
Entoure-toi bien.
À titre personnel et professionnel?
Oui. En fait, un patron est quelqu'un qui s'entoure de gens qui sont plus forts que lui. Voilà. Ça, moi, j'ai... Quelqu'un m'a dit ça, heureusement, très tôt dans mon parcours. Et ça m'est resté dans l'oreille tout le temps. Et j'ai eu de cesse de faire venir des gens qui étaient dans leur compartiment du jeu absolument excellent.
Une maxime, une citation, des mots de sagesse qui comptent pour vous.
Et il y en a une que j'aime beaucoup qui dit « Soyez vous-même ». Les autres sont déjà pris. Je pense que c'est Oscar Wilde qui a dit ça. Moi, ça me parle.
Je vous remercie. Dernière question pour vous, Isabelle. Un livre ou des livres qui vous ont particulièrement marqué, qui vous ont fait changer, évoluer et que vous pourriez partager avec nous?
Bon, moi, je lis beaucoup de livres, mais je saisis l'occasion là pour parler d'un bouquin qui est très particulier pour moi et que Marc, mon mari... a écrit juste avant de nous quitter. Il y a un peu plus d'un an de ça maintenant, qui est un livre qui s'appelle « Sans carte ni boussole, il est urgent de diriger autrement ». Oui, on est dans le thème.
Ouais.
On est dans le thème de tout à l'heure. Et au-delà du bagage émotionnel, évidemment, que j'ai forcément quand je vous dis ça, c'est un livre qui est magnifique et qui est au fond centré sur les problématiques dont implicitement on discute depuis tout à l'heure. C'est une description de ce de pourquoi et en quoi les dirigeants qui vont réussir à emmener leurs organisations sont pas tout à fait les mêmes qu'hier. Et je pense que c'est un livre qui fait bien réfléchir. Et c'est vrai qu'on est dans le sans carte ni boussole, c'est tellement bien trouvé. On est dans une espèce de période assez singulière dans laquelle le besoin de changer n'a jamais été aussi fort. Et puis maintenant, ça se voit. Et en même temps, les routes pour aller ailleurs n'ont probablement jamais été aussi floues. Pas dans les grandes orientations, ça c'est assez clair. Mais concrètement, le comment,
détail, ouais.
Ça c'est assez flou. Et donc ça veut dire des dirigeants qui... sont vraiment très loin, mais c'était on reboucle sur votre question tout à l'heure, Pauline, très loin de je mets en œuvre de manière un peu militaire, je caricature, hein, mais quelque chose, mais au contraire, je fais émerger, bon, je suis capable d'avoir des intuitions en tant que leader, qui elles-mêmes viennent de plein de choses dont je me suis nourri, mais j'ai des intuitions, et je les livre en pâture à un système qui les densifie, une espèce de danse comme ça. Et puis un cap qui émerge. Et puis des leaders pour porter le cap aussi. Voilà, c'est ça ce livre. Moi, je vous le recommande.
Eh bien, je vous remercie Isabelle et je vous remercie d'avoir partagé non seulement ce livre et puis de nous en avoir dit un petit peu plus. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de parler trop de votre vie personnelle, mais je sais que c'est un livre qui compte pour vous. Donc
sans
carte ni boussole.
Sans carte ni boussole.
Je mettrai le lien
bien
sûr. Marc
Delhérite.
Marc Delhérite. Isabelle, on arrive au bout de cette interview. Je vous remercie mille fois pour le temps que vous m'avez consacré. Si certains auditeurs ont envie de vous contacter, ont envie de vous soutenir, ont envie de soutenir Bluenomy, ont envie de vous dire aussi qu'ils ont apprécié cet épisode, où est-ce qu'on peut le faire le plus simplement possible?
LinkedIn,
vous êtes active.
Voilà.
Parfait. Isabelle Cochère de Delhérite. Je vous remercie mille fois, Isabelle, pour votre temps.
Merci, Pauline.
Bye bye les amis, c'est la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, quelques détails en plus. D'abord, pour toutes les infos sur le podcast et cet épisode, ça se passe sur paulinegno.com, vous aurez tout promis, juré. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions ou me proposer de nouveaux invités, eh bien n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn, Instagram ou YouTube, je vous attends. Enfin, encore mille merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère de tout cœur que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.